Je suis professeur de droit de l'environnement et le projet que je vais vous présenter est fait au nom du Centre international de droit comparé de l'environnement, qui est une ONG internationale dont je suis le président et qui a le statut consultatif auprès des Nations Unies. Et par conséquent, nous participons en tant que juristes spécialisés dans les questions d'environnement. On participe aux grandes réunions et conférences internationales sur l'environnement au sens large. Et c'est un peu dans ce cadre qu'on a élaboré un projet de convention que je vais vous présenter sur les déplacés environnementaux. Alors avant de commencer, a priori, les déplacés environnementaux, on pense beaucoup aux pays du Sud, parce qu'effectivement, c'est là qu'il y a le plus de catastrophes naturelles ou même de catastrophes industrielles, technologiques, qui affectent les pays des populations du Sud. Mais avant de commencer, je voudrais dire que même en France, il y a des personnes victimes de catastrophes environnementales et qui n'ont pas de droits. Le premier exemple que je vais donner, c'est à la suite d'une décision tout à fait récente du 6 avril 2018 du Conseil constitutionnel, où était posée la question à cette haute juridiction constitutionnelle française de savoir si les victimes de l'érosion côtière sur la côte du Pilat, qui avaient été obligées d'évacuer leurs habitations sur ordre de l'État à cause de la montée du niveau de la mer sur la côte atlantique française, si ces victimes avaient le droit à une compensation et à une réparation au titre du Code de l'environnement, qui prévoit que les victimes de catastrophes ont le droit d'obtenir des indemnités d'expropriation lorsqu'ils sont obligés de quitter leur propriété à cause d'une catastrophe. Donc c'était une question très simple pour laquelle le Conseil constitutionnel pouvait donner une réponse très simple. Mais le droit, c'est un peu plus compliqué que ce qui est très simple. Et par conséquent, le Conseil constitutionnel a dit « Oh, les victimes de l'élévation du niveau de la mer ne sont pas victimes d'une catastrophe couverte par le Code de l'environnement. » Parce qu'il se trouve, et évidemment tous les mots ont leur importance, que le Code de l'environnement permet d'indemniser les victimes de catastrophes qui sont les victimes de avalanches, crues, torrentielles, montées rapides des eaux ou submersions marines. Et alors on pouvait comment considérer, sans trop de difficultés pour interpréter la loi, c'est le travail du Conseil constitutionnel, que submersion marine, ça pouvait couvrir l'élévation du niveau de la mer et les effets de l'érosion côtière. Mais peut-être que les demandeurs avaient mal formulé leur requête et qu'ils n'avaient pas rattaché directement l'érosion côtière à la submersion marine. Résultat, le Conseil constitutionnel a dit, il n'y a rien à voir, si vous voulez qu'on indemnise les victimes de l'érosion côtière en France, il faut modifier la loi. Et ils ont renvoyé au Parlement le soin d'ajouter érosion côtière à la liste des cas prévus par le Code de l'environnement. Donc ceci pour montrer que ces personnes qui ont été évacuées de force de leur propriété sur le littoral français à cause de l'élévation du niveau de la mer et l'érosion côtière n'ont pas de droit, ne peuvent pas obtenir une compensation financière du fait de leur expropriation forcée, en quelque sorte. Deuxième exemple, qui montre cette fois-ci pour des étrangers venant en France qu'il peut y avoir des victimes de catastrophes qui n'ont pas de droit, c'est à la suite de la catastrophe de Tchernobyl. Voilà une femme et son enfant, victimes de la catastrophe de Tchernobyl, gravement irradiés par les radiations ionisantes et qui pensait qu'elle pouvait se faire soigner en France et qui a par conséquent demandé le bénéfice du statut de réfugié. Puisque un étranger qui veut venir en France pour avoir un statut légal rentre, et on va revenir là-dessus parce que c'est un problème, rentre uniquement dans la case réfugié, en application d'une convention internationale sur les réfugiés qui est de 1951 et qui, là encore, c'est le droit, parce que le droit enferme, mais le droit peut aussi libérer, qui définit strictement ce que c'est qu'un réfugié au sens de la convention de 1951. Et cette convention a été faite après la guerre pour protéger essentiellement les personnes, et je cite, persécutées. Persécutées pour des raisons politiques, pour des raisons raciales, pour des raisons religieuses, bref, persécutées. Et donc cette dame demande l'octroi du statut de réfugié, elle passe devant la commission spéciale, on lui refuse le statut de réfugié. Elle peut faire appel devant le Conseil d'État. Elle va devant le Conseil d'État. On dit « Mais je suis victime d'une catastrophe nucléaire, industrielle, et je suis, entre guillemets, persécuté par le sort et par l'énergie nucléaire. » Et le Conseil d'État, qui applique le droit, lui dit « Écoutez, madame, je suis désolé, mais vous ne rentrez pas dans les catégories de personnes persécutées, et par conséquent, vous pouvez retourner à Tchernobyl. Vous n'aurez pas le statut de réfugié en France parce que vous ne rentrez pas dans la catégorie juridique qui peut bénéficier du statut de réfugié. » Et donc voilà deux personnes, une étrangère à qui on dit il n'y a pas de catégorie pour vous recevoir en France comme réfugié environnemental ou victime catastrophe, et une personne française victime de l'élévation du niveau de la mer et à qui on dit « Vous n'existez pas, il n'y a pas de statut juridique pour vous. » Donc il y a un problème. Et on considère, nous, juristes de l'environnement, qu'il y a un vide juridique. Et quand il y a un vide juridique, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de règles juridiques précises pour couvrir ce vide. Et quelle est notre responsabilité comme juristes universitaires et maintenant responsable d'une ONG internationale, c'est de combler ce vide et donc de proposer aux États d'adopter un texte qui permet de protéger et les victimes d'une élévation du niveau de la mer et les victimes d'une catastrophe industrielle. Alors, les gens qui sont victimes d'une catastrophe environnementale, et je couvre aussi bien catastrophe naturelle que catastrophe industrielle, qui est un accident environnemental. Quand l'usine de Bhopal a explosé en Inde, c'est une catastrophe industrielle qui est en même temps environnementale. Et les victimes, elles sont obligées de fuir pour survivre, à la condition qu'elles ne soient pas mortes immédiatement à la suite de la catastrophe. Et donc ceux qui fuient pour survivre, ils ont deux options. Soit de fuir à l'étranger, on les appelle des déplacés externes, parce qu'ils passent une frontière, soit de fuir dans leur propre pays, et on les appelle des déplacés internes. Et le problème posé, c'est de savoir quel droit de l'homme s'applique à ces personnes, et est-ce qu'ils ont un statut juridique en tant que déplacés externes ou internes. Déplacés à la suite d'une catastrophe environnementale, qui peut être provoqué par l'élévation du niveau de la mer, qui peut être provoqué par un tsunami, qui peut être provoqué par un tremblement de terre, qui peut être provoqué par une éruption volcanique, qui peut être provoqué par l'explosion de l'usine. Bref, il y a tout un tas de cas de figure qui sont à l'origine d'un déplacement forcé de personnes victimes d'une catastrophe. Alors, pour répondre à cette situation de ces personnes, il existe déjà beaucoup d'instruments qui sont des instruments que j'appellerais parajuridiques, c'est-à-dire qui ne sont pas obligatoires. C'est ce qu'on appelle le soft law pour les juristes de droit international. Il y a depuis 2000 une stratégie internationale de l'ONU pour la réduction des catastrophes. Il y a une résolution des Nations Unies 2009 sur les catastrophes naturelles et la vulnérabilité. Il y a des recommandations du Conseil de l'Europe de 2009, vous voyez, c'est déjà un certain temps, sur les migrations et les déplacements environnementaux. Il y a le Conseil des droits de l'homme à l'ONU qui traite spécialement des droits de l'homme de tous les migrants. Il y a, depuis 2015, à l'ONU, le cadre de Sendai, au Japon, sur la réduction des risques de catastrophes. Et j'ai été moi-même à Sendai, au Japon, qui est à 200 km de Fukushima, et c'était après la catastrophe de Fukushima. Et les Japonais avaient, avant la catastrophe de Fukushima, déjà décidé de faire cette réunion à l'ONU. Ça se décide 10 ans avant. Donc ils ne savaient pas qu'ils allaient être post-Fukushima. Eh bien, vous me croirez ou non, mais les Japonais, ils ont fermé les yeux. Ben, les Japonais, le gouvernement. Et on parlait de tout, sauf des catastrophes nucléaires, qui n'existent pas. On était à 150 km de Fukushima, où il y avait eu, je crois, 200 ou 300 000 personnes évacuées de force, plus les victimes à terme, etc. Mais il ne fallait pas en parler, parce que raison d'État. Donc, beaucoup de documents officiels des Nations Unies qui étudient le problème des catastrophes environnementales, en disant il faut faire ci, il faut faire ça. Et dans le cadre de Sendai, justement à Sendai, on a approuvé un document qui est toujours en application, qui est un programme 2015-2030. C'est le programme de l'ONU pour lutter contre les catastrophes, qui a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015. J'ai dû me battre, enfin au sens figuré, je suis pacifiste, j'ai dû me battre à Sendai pour que dans la négociation internationale sur les catastrophes, on introduise le mot « droit de l'homme ». Parce que les victimes des catastrophes ont droit aux droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme, ça s'applique partout, tout le temps, en toutes circonstances. C'est l'universalité des droits de l'homme. Les droits de l'homme, ce n'est pas uniquement en cas de paix. Les droits de l'homme, ce n'est pas uniquement quand tout va bien. Même en cas de guerre, il y a des droits de l'homme. Et en cas de catastrophe, disons que c'est entre la paix et la guerre, même en cas de catastrophe, les droits de l'homme s'appliquent juridiquement. Mais il faut le dire noir sur blanc dans les déclarations des Nations Unies sur les catastrophes. Et il a fallu convaincre les négociateurs et les États d'introduire le mot « droit de l'homme » dans la déclaration de Sendai de 2015. Il a fallu aussi se battre pour dire « mais en cas de catastrophe, il y a des déplacés. Et il n'y a pas que des catastrophes inondations, il y a des catastrophes industrielles. Ah, il ne faut pas trop parler parce que ça, c'est nucléaire, c'est Fukushima, catastrophe industrielle. Donc il faut dire « catastrophe » et sous-entendre que derrière le mot « catastrophe », il y a naturel et industriel. Mais c'est sous-entendu. Il ne faut pas trop le dire. Parce que les États n'aiment pas trop qu'on le dise. Parce que les catastrophes naturelles, les États, bon, ils ne sont pas contents des catastrophes naturelles. Mais ce n'est pas eux. Ils ne sont pas responsables. Donc ça leur est indifférent qu'on en parle et qu'on dise il faut faire ci, il faut ça. Et au niveau de la solidarité, du droit humanitaire, la Croix-Rouge, etc., les États vont aider. Les associations humanitaires vont aider la Croix-Rouge pour porter secours aux victimes des catastrophes naturelles. Parce que là, ce n'est pas eux. Mais catastrophes industrielles, technologiques, là, il ne faut pas trop en parler, parce que qui dit industriel et technologique dit il y a un responsable. Ce n'est plus Dieu qui est responsable de la catastrophe naturelle. La catastrophe technologique, même si elle est accidentelle, alors on a aussi dit que accidentelle, c'était pas l'entrepreneur qui était responsable de l'accidentelle, c'était le hasard, la force majeure, etc. Donc ça venait d'un événement supra-humain. Mais donc, catastrophe industrielle ou technologique, a priori, on va pouvoir commencer à chercher des responsables. Évidemment, les États n'aiment pas qu'on cherche des responsables. Mais dans la déclaration de Sendai, malgré tout, comme je le dis ici, il y a trois mentions sur un document de 37 pages, des déplacements de population comme conséquence de catastrophes. Parce que les catastrophes, on aime bien les étudier quand tout le monde est mort. Parce que là, on va enterrer les gens, il y a la Croix-Rouge qui est là, bon, on n'en parle plus, ils sont tous morts. Mais s'il y a des survivants, c'est catastrophique. S'il y a des survivants, il faut traiter les survivants. Qu'est-ce qu'on va faire des survivants ? Alors, ils sont blessés, ça va coûter cher dans les hôpitaux, ils ont toute leur maison qui a disparu, il faut qu'ils s'en aillent. Où est-ce qu'ils vont aller ? Dans un autre pays, dans une autre région ? Là, ça commence à devenir compliqué. Et donc, les déplacements de population à la suite d'une catastrophe, il faut en parler le moins possible. Alors, il y a des chiffres. Je n'ai pas voulu donner des chiffres parce qu'il y a plein de chiffres. Et les chiffres, on peut toujours les discuter. Les chiffres officiels de l'ONU, il y a des millions, des centaines de millions de personnes déplacées pour des catastrophes environnementales. Des centaines de millions. Et, alors évidemment, ça aussi c'est intéressant sur le plan politique, le texte dit il faut réduire les déplacements transfrontaliers de population. Parce que vous comprenez, si tous les déplacés environnementaux viennent se réfugier en France, on n'est pas très content. Donc réduisez les déplacements transfrontaliers. Hein. Les déplacements internes, c'est bien, parce qu'ils restent chez eux, les pays sous-développés où il y a le plus grand nombre de catastrophes, ils n'ont qu'à s'occuper des déplacés internes. Hein. Ils restent chez eux, hein, au Cameroun, au Mali, etc. S'il y a des catastrophes, il faut qu'ils restent chez eux. Donc les déplacés internes, c'est très bien. Il faut encourager les déplacés internes. Mais les déplacés externes qui franchissent la frontière, il faut les décourager. Réduire les déplacements transfrontaliers des populations. Alors, est-ce qu'il y a des conventions pour traiter ce problème ? J'ai parlé de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés et les mots ont leur importance. Et c'est pour ça que moi, j'appelle pas les personnes victimes des catastrophes des réfugiés, je les appelle des déplacés environnementaux. Parce que le terme réfugié a un sens juridique et politique. C'est les persécutés politiques, raciaux, religieux, etc. Ceux qui viennent de Syrie sont des réfugiés, parce qu'ils sont persécutés. Ils peuvent démontrer qu'ils ont quitté la Syrie, non pas à cause d'un tremblement de terre, mais à cause des persécutions qu'ils subissent de la part du régime de Syrie. Donc, eux, pas de problème. Les Syriens qui arrivent en France, qui demandent le statut de réfugié, on leur donne, parce qu'ils ont le droit de la Convention de Genève. Mais ceux qui ne viennent pas de Syrie, qui viennent d'ailleurs, qui viennent du Mali, qui viennent du Cameroun, qui viennent je ne sais pas où, qui viennent du Bangladesh, avec l'élévation du niveau de la mer, eux, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont persécutés, et par conséquent, ils ne rentrent pas dans la Convention de Genève des réfugiés. Ils ne sont pas réfugiés juridiquement. Alors, il y a une seule convention, mais qui ne s'applique pas en Europe, c'est les Africains, qui sont très en avance pour beaucoup de choses, contrairement à ce qu'on pense. C'est la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées à l'intérieur de leur pays. C'est la Convention de Kampala, entre États africains. C'est les déplacés à l'intérieur de leur propre pays. Parce qu'en Afrique, c'est un problème terrible, à la fois pour les guerres civiles et puis pour les catastrophes environnementales. Les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, la désertification, la faim, tout ce que vous voulez, ils sont gâtés là-dessus. Et donc, et comme c'est des pays immenses en Afrique, celui qui est victime d'une catastrophe au nord du Congo, pour aller au sud du Congo, c'est aussi loin que de traverser l'Atlantique. Hein, c'est plus de 5000 kilomètres. Donc pour eux, des déplacés internes, c'est un voyage énorme. Et dans ces pays si grands, les déplacés internes qui vont dans une autre région, ils sont évidemment considérés comme des étrangers. Hein ? le Congolais du Sud par rapport au Congolais du Nord ou de Katanga, il est considéré comme un étranger. D'abord, il ne fait pas partie de la même ethnie, et donc il y a une discrimination raciale. Et ensuite, ils sont peut-être même pas la même langue, puisqu'ils parlent un dialecte différent. Donc, pour eux, c'est un vrai problème, les déplacés environnementaux dans les États africains, à l'intérieur, les déplacés internes. Et par conséquent, les Africains ont dit, il faut régler la question, en tous les cas, essayer d'apporter des solutions. Et il y a cette convention de Kampala qui s'applique à la fois aux déplacés à cause des guerres, à cause des événements environnementaux. Toutes les causes de déplacement sont couvertes par la convention de Kampala. C'est un bon exemple. Hein, si en Europe, on faisait une convention sur les déplacés en Europe à cause de toutes les causes de déplacement, on aurait fait un progrès. Et donc, on leur donne des droits, on leur donne un statut, il y a des règles qui s'appliquent à eux, j'entre pas dans le détail. Ils ont des droits reconnus par une convention. Alors, pour les déplacés internes, environnementaux, en dehors de la convention de Kampala, il y a un document des Nations Unies qui s'appelle « Principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l'intérieur de leur propre pays ». Mais ce n'est pas une convention, c'est du « soft law ». C'est une sorte de directive des Nations Unies. Mais ça s'applique partout, même en France, mais pas de façon obligatoire. Ça date de 1998, donc ça a déjà, c'est ancien, hein, 20 ans, et ça a été approuvé par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies en 1998. Mais ça n'a pas valeur contraignante, c'est simplement une directive. Et à l'intérieur, il y a tout un tas de, j'allais dire, recommandations, en disant voilà ce qu'il faut faire quand vous avez des déplacés internes qui viennent chez vous, dans votre propre pays, parce qu'ils ont été victimes d'une catastrophe. Il faut les protéger contre les déplacements arbitraires. Il faut apporter une aide humanitaire. Il faut aider au retour. Il faut les réinstaller. Il faut les réintégrer. Bref, toute une série de recommandations, j'allais dire de bonnes conduites, de bonnes pratiques pour bien accueillir les déplacés internes en cas de catastrophe ou de n'importe quoi, parce que c'est très large comme champ d'application. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais il y a plusieurs États, parce qu'il y a des États qui acceptent d'appliquer même les choses pas obligatoires de l'ONU, puisque c'est des recommandations. Donc ils acceptent volontairement. Donc à l'heure actuelle, on considère qu'il y a 20 États dans le monde qui ont intégré dans leur droit national les recommandations de ces principes directeurs, qui en ont fait du droit interne, parce qu'ils ont trouvé que c'était des bonnes recommandations pour bien accueillir les déplacés internes. Bon, la France n'a pas, à ma connaissance, intégré les principes directeurs dans le droit interne. Mais c'est que les déplacés à l'intérieur de leur propre pays. Donc ça s'appliquerait aux victimes du Pilat, de l'élévation du niveau de la mer, mais ça ne s'appliquerait pas à la victime de Tchernobyl. Alors, est-ce qu'il y a des voies dans le droit international ouvertes pour résoudre cette question ? Il y en a une très intéressante, mais qui est encore à l'étape embryonnaire, c'est la Commission du droit international de l'ONU. À l'ONU, il y a tout ce qu'il faut à l'ONU. À l'ONU, il y a une commission du droit international qui est composée de juristes les plus éminents du droit international de tous les pays du monde, qui sont désignés par l'Assemblée générale des Nations Unies, et qui se gratte la tête pendant plusieurs mois chaque année pour élaborer des textes de droit international qui sont considérés comme la codification de ce qui existe en droit international, la coutume du droit international, les principes généraux du droit international. Donc ils sont là pour transformer ces principes généraux et ces coutumes en conventions internationales, en droit dur. Et donc, il rédige des projets de convention sur des tas de sujets. Et depuis quelques années, comme l'environnement est devenu un sujet d'actualité pour les Nations Unies, depuis quelques années, il travaille sur des sujets environnementaux. Et notamment, à l'heure actuelle, comme on va un peu parler du climat à cause des déplacés dits climatiques, à l'heure actuelle, il travaille sur un projet de convention internationale sur le climat, sur la notion de climat en droit international. Et ils vont sortir un projet de convention là-dessus en disant qu'est-ce qu'on peut dire à propos du climat en droit international. Bon. Là, ils ont travaillé depuis 2010, sur un sujet très précis et très intéressant pour nous, droits de l'homme et droits de l'environnement, qui est la protection des personnes en cas de catastrophe. La protection des personnes en cas de catastrophe. Et ils ont écrit, une quinzaine d'articles d'un projet de convention sur la protection des personnes en cas de catastrophe. Alors j'ai participé un peu, tout le monde peut participer, donner des idées. Et le sujet était intéressant parce qu'ils abordaient à la fois les droits de l'homme, donc les droits individuels, les droits de l'homme, c'est les droits individuels, et puis les droits des États et la responsabilité des États en cas de catastrophe. Donc il y avait à la fois le volet droits individuels et droits et obligations des États, qui sont deux entrées différentes qui se rejoignent quelque part, mais qui souvent sont un peu dyslexiques. Alors d'abord, ils ont donné une définition de la catastrophe, qui est la première définition en droit international. Parce qu'en droit international, il n'y a aucune convention internationale sur les catastrophes. Le droit international ignore les catastrophes. Il n'y a aucune convention universelle sur les catastrophes. Sur les catastrophes, il n'y a que des conventions régionales. Mais c'est des conventions régionales pour échanger les pompiers, la Croix-Rouge, et pour porter secours. Ce n'est pas des conventions qui donnent des droits aux gens. C'est des conventions de secours, d'assistance. Alors c'est très bien, c'est la première chose à faire en cas de catastrophe, c'est apporter l'assistance. Et donc les conventions qui existent en cas de catastrophe, c'est des conventions d'assistance. Ce n'est pas des conventions qui donnent des droits à quelqu'un. Elles donnent des obligations aux États de porter secours. Et donc là, dans ce projet de convention, qui n'est pas encore une convention, qui n'est qu'un projet, il y a effectivement l'obligation des États de porter secours aux autres en cas de catastrophe. Et vous avez peut-être entendu parler, ça pose des problèmes juridiques très importants pour certains États qui, au nom de la souveraineté, disent « Oh, mais moi, j'ai pas besoin qu'on m'apporte de secours. » Hein, quand la Birmanie a été victime d'une catastrophe, je sais plus laquelle, une inondation, un tremblement de terre, hein, il y avait des milliers de morts. Aussitôt, tous les États ont dit « On va venir vous aider, la Croix-Rouge, etc. » La Birmanie a dit « Non, non, j'ai besoin de personne. » Ils ont refusé qu'on apporte secours en cas de catastrophe. Ils avaient le droit, en droit international. Ils sont souverains. Il faut que l'État donne son accord pour que la Croix-Rouge internationale vienne. Sinon, elle ne peut pas venir. Et donc, là, on a voulu et on veut surmonter l'obstacle des États voyous, souverains, qui disent « Moi, j'ai besoin de personne en cas de catastrophe. Mon peuple peut crever de faim, ça m'est égal. » Parce que c'était une dictature militaire hein, en Birmanie. Et donc là, il y a des articles. Là, j'entre pas là-dedans, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais c'est intéressant de le dire parce que ça rentre dans toute la réflexion sur les catastrophes. Il y a des articles qui essaient de contourner le refus d'un État qui veut pas qu'on lui apporte des secours. Alors c'est rédigé dans une certaine façon, mais pour contourner l'obstacle. Et normalement, si ces textes sont approuvés, la Birmanie ne pourra pas refuser. En tous les cas, ne pourra refuser qu'en donnant des vraies raisons à l'échelle internationale, etc. Et on la montrera du doigt en disant c'est un scandale au niveau humanitaire, ils refusent qu'on leur porte secours. Et à l'intérieur de ces textes, il y a ce qui m'intéressait le plus, et j'ai beaucoup agit pour que ça soit dans le texte, on évoque le déplacement massif de population en cas de catastrophe. Déplacement massif de population. Et donc, c'est la première fois qu'on reconnaît qu'à la suite d'une catastrophe, il peut y avoir des déplacés. Et là, on ne dit pas interne ou externe. Tout le monde est déplacé à la suite d'une catastrophe. Donc ça commence à devenir des gens pris en compte par le droit international. Alors, dans ce projet de la Convention de droit international, CDI, c'est la Convention de droit international, il y a l'obligation de coopérer. Donc même la Birmanie sera obligée de coopérer. Le droit au respect des droits de l'homme, c'est pas parce qu'il y a catastrophe qu'on ne s'occupe pas des droits de l'homme. Les droits de l'homme s'appliquent en cas de catastrophe. Et ils s'appliquent à tout le monde, attention. Ils s'appliquent aux victimes et ils s'appliquent aussi aux secouristes. Le rôle de l'État touché, l'obligation de l'État affecté de rechercher de l'assistance, article 11, ça c'est pour la Birmanie, obligation de l'État affecté de rechercher de l'assistance. Droit d'offrir l'assistance, faciliter l'assistance. Bon. Mais dans ce projet de Commission de droit international, toujours pas de droit pour les déplacés environnementaux. Droit de l'homme, ok, droit de l'homme, ça existe déjà. Mais des droits spécifiques pour les déplacés, non. Alors il y a l'initiative Nansen. Nansen, c'est une initiative de la Norvège, puisque M. Nansen, c'était un diplomate norvégien qui a été à l'origine de la création de la Croix-Rouge à la fin du XIXe siècle. C'est un diplomate et qui a développé un faux vrai passeport, parce qu'il n'a pas été reconnu, un passeport qui serait délivré aux gens victimes de catastrophes, qui aurait un espèce de laissez-passer de victimes de catastrophes. Donc c'était déjà une idée, la victime des catastrophes a des droits qu'il faut inventer. Et donc ils ont lancé des conférences, la conférence de Nansen en juin 2011, où il y a les principes de Nansen. Alors vous avez toute une série de principes pour les victimes de catastrophes, en disant il faut les protéger, ils ont des droits, etc. Et ils ont développé leur réflexion à partir de 2012-2013 en créant une espèce d'ONG internationale, mais qui est aidée par certains États qui sont les plus sensibilisés à la question des catastrophes et à l'aide humanitaire. La Suisse, la Norvège, le Costa Rica, l'Australie, le Mexique, le Kenya, les Philippines, l'Allemagne et le Haut Commissariat pour les réfugiés et l'Organisation mondiale des migrations. Il n'y a pas la France. Et ils ont fait des tas de rapports. Moi, je suis dans le conseil scientifique de cette initiative Nansen. Il y a des réunions. Ils font réfléchir les scientifiques, les spécialistes des catastrophes, à la fois les scientifiques des sciences dures, les sociologues, les spécialistes des droits humanitaires, les juristes, etc. Donc c'est totalement pluridisciplinaire et c'est un mouvement très intéressant de réflexion sur la gestion des catastrophes. Alors ils essayent de promouvoir quelque chose sur les déplacés externes. Parce qu'on a vu les déplacés internes, ils sont théoriquement couverts par les principes directeurs sur les déplacés internes de l'ONU. Ça en est resté là, mais les gens de l'ONU disent « Ah ben, les déplacés internes, il y a déjà les principes directeurs pour les déplacés internes. » Et donc Nansen a dit « Les déplacés internes, ils sont couverts par les principes directeurs des déplacés internes. » Qui, pour moi, c'est de la roupie de Sansonnet, parce que ce n'est pas du droit dur. Bon. Et donc ils se sont dit « Il faut s'attaquer maintenant à ceux qui ne sont pas couverts. » C'est les déplacés externes des catastrophes, c'est-à-dire ceux qui franchissent une frontière en cas de catastrophe et en cas de changement climatique, puisque la mode, c'est changement climatique, donc on a dit catastrophe et changement climatique. Et donc, ils développent tout un tas de choses là-dessus. Alors, ils ont développé un document que je ne cite pas là, qui date, je crois, de 2016-2017, sur les bonnes pratiques. Alors moi, les bonnes pratiques, ça m'énerve. Parce que je suis juriste, bon, et je préfère la pratique du droit que les bonnes pratiques. Parce que les bonnes pratiques, ça veut dire quoi ? C'est facultatif, c'est volontaire. Donc c'est volontaire pour ceux qui sont volontaires. Mais ceux qui ne sont pas volontaires, ils peuvent s'asseoir dessus, ça ne vaut rien. Donc les bonnes pratiques, c'est bien pour réfléchir, pour dire voilà ce qu'il faudrait faire. Mais après, il y a un moment où ça suffit, les bonnes pratiques. Il faut passer des bonnes pratiques au droit. Mais Nansen et ce groupe refusent, pour ça j'ai mis refus d'une convention internationale. Pourtant, j'ai essayé de leur expliquer tout ce que je vous explique, etc. Il faut une convention internationale. Ils ont dit non, c'est trop tôt, les États n'en veulent pas. Oui, mais si on attend que les États en veulent, on pourra attendre le 22e siècle. Hein. Si on avait attendu que les États veuillent des droits de l'homme, veuillent du droit humanitaire, on ne serait pas avec le droit de l'homme et les droits humanitaires qu'on a eus après la guerre. C'est parce qu'il y a eu des militants, la Croix-Rouge, etc., et puis des États promoteurs qui ont dit « Allez, on y va, il faut le faire maintenant hein. ». Donc, attendre la Lune, ça ne servira à rien. Et donc, ils ont refusé, alors qu'ils ont travaillé là pendant combien de 2011 à 2016, pendant 5-6 ans, ils ont travaillé avec des tas de documents, il y a tout ce qu'il faut. Il suffirait de dire, on en fait une convention internationale, et ça y est, ça passerait. Mais ils disent, non, bonne pratique, à plus tard la convention internationale. Donc là, moi, je ne suis pas d'accord, et je l'ai dit, et je le répète. Alors Rio plus 20, je passe, on n'a pas le temps. Rio plus 20, il ne s'est rien passé. Alors après Rio plus 20, il y a eu, en 2015, les ODD, les Objectifs de Développement Durable. Où on dit, ah, les Objectifs de Développement Durable, approuvés le 25 septembre 2015, c'est formidable, parce que c'est la charte pour l'humanité. Bon, c'est très bien, les Objectifs de Développement Durable. Hein, il y a tout ce que vous voulez. Ça, c'est self-service, là, vous trouvez tout ce que vous voulez. Mais c'est self-service non payant, gratuit et volontaire. C'est que pour les volontaires. Hein, ce n'est pas obligatoire. Donc tout le monde est d'accord. Les États, même les États-Unis, ont signé les ODD puisque ce n'est pas obligatoire. Donc les États-Unis signent tout ce qui n'est pas obligatoire. Alors il y a un paragraphe 23 pour se consoler dans les objectifs de développement durable. Où il dit, ah, il faudrait adopter de nouvelles mesures. Il faudrait, hein, parce que c'est un projet, c'est 2030, on verra en 2030. Il faudrait adopter de nouvelles mesures pour les réfugiés, les déplacés et les migrants. Bon, je dis, bravo, c'est un petit pas, hein, parce qu'avant, on n'a jamais dit ça. Donc, pour la première fois, l'ONU dit, et ça a été approuvé par tous les États du monde, il faudrait adopter de nouvelles mesures pour les réfugiés, les déplacés et les migrants. Et donc, moi, je dis bravo. On est en 2015. On a posé la première pierre d'un statut juridique pour les déplacés et les migrants. C'est la première pierre. Il faut adopter de nouvelles mesures. Quelles nouvelles mesures? Ça, on verra. Paragraphe 29. Il faut traiter avec humanité les migrants et les déplacés dans le plein respect des droits de l'homme. Ah, ça, c'est aussi nouveau de dire qu'ils ont droit aux droits de l'homme. Parce qu'avant, on disait, ah, les déplacés, il faut les sauver, il faut les aider, il faut les héberger, mais il ne fallait surtout pas parler des droits de l'homme. Parce que droits de l'homme, ça existe déjà. Et on peut déjà appliquer des conventions, des textes, des droits applicables, obligatoires, sur droits de l'homme. Et là, ça marche. Il y a des tribunaux pour censurer le non-respect des droits de l'homme. Donc là, les migrants victimes des droits de l'homme, on peut déjà les protéger devant les tribunaux. Parce que les droits de l'homme existent. Mais on fait semblant comme s'ils n'existaient pas. On les oublie. Donc là, c'est pas neutre de dire les déplacés ont droit au respect des droits de l'homme. Et c'est écrit par l'ONU en 2015. Et puis, il faut faciliter la migration et la mobilité. Ça, c'est une autre thématique. On n'est pas forcément d'accord. Alors, convention sur le changement climatique. Tout le monde dit, mais l'élévation du niveau de la mer, les tsunamis, tout ça, c'est la faute au climat. Pourquoi pas? Il faut le démontrer. Scientifiquement et après juridiquement. Parce qu'il ne suffit pas de l'avoir démontré scientifiquement, après il faudra le démontrer juridiquement. Ça s'appelle en droit le lien de cause à effet. Est-ce que l'élévation du niveau de la mer au Bangladesh, est-ce que je peux démontrer juridiquement que c'est causé par le changement climatique? Est-ce que je vais trouver un tribunal qui va admettre le lien de causalité entre le changement climatique et la victime de Bangladesh qui a été obligé de s'en aller à cause de l'élévation du niveau de la mer. Il va y avoir controverse scientifique. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Et le juge, il va dire, j'en sais rien, j'y comprends rien, donc c'est non. Donc la question du changement climatique, cause directe, des déplacements environnementaux, c'est une question avec un point d'interrogation. Parce qu'il faut le démontrer. C'est une hypothèse. Ça peut être une cause indirecte, plus ou moins directe. Ça dépend où, ça dépend quand, ça dépend des endroits. Parce que l'élévation du niveau de la mer au Bangladesh, elle n'est pas causée par les mêmes phénomènes géophysiques et climatiques que l'élévation du niveau de la mer à la dune du Pila. C'est pas dans la même région géographique. C'est pas dans la même région climatique. Et par conséquent, tous les éléments sur le changement climatique régional, ils ne reposent pas sur les mêmes données climatologiques et scientifiques. Et donc, la question de savoir si les déplacements causés par le changement climatique et causés donc par quoi ? Par plusieurs éléments du changement climatique. Ce n'est pas forcément l'élévation du niveau de la mer. C'est peut-être aussi la désertification au Mali, qui n'a rien à voir avec l'élévation du niveau de la mer. Mais démontrez-moi scientifiquement que la désertification au Mali, il y a un lien de cause à effet avec le changement climatique. Et que je peux démontrer devant un juge qu'il y a un lien de cause à effet. Donc la question est complexe. La question est incertaine scientifiquement et donc incertaine juridiquement. Je ne dis pas que je suis climato-sceptique, ça n'a rien à voir. Je dis que pour traduire en termes juridiques le lien de causalité entre le phénomène de la désertification, le phénomène de l'élévation du niveau de la mer et le déplacement des populations, je suis juridiquement démuni. Et donc, il faut trouver des entrées pour admettre que le changement climatique est juridiquement susceptible d'entraîner des déplacements de population. Jusqu'à présent, la Convention sur le changement climatique de 2012, la Convention cadre, ignorait totalement le problème. Il n'y a rien sur les conséquences des changements climatiques se traduit par des déplacements de population. C'est seulement depuis la COP de Cancun, la 16e. Alors, je n'ai pas mis l'année, je ne me rappelle plus, vous chercherez. La 16e COP, c'est 2007, 8, 9, je ne sais plus, peu importe. Donc, une des conventions sur l'application de la Convention sur le changement climatique, une conférence des parties, la 16e, c'est pour la première fois que les États, dans une décision de la conférence du parti, alors pour les juristes, c'est pas la convention. La décision de la conférence des parties n'a pas le même statut juridique que la convention. Mais c'est pas le sujet pour en traiter. Que la décision 1 de la conférence des parties dit il faut réfléchir à adapter des mesures, c'est l'adaptation au changement climatique. Alors moi, j'ai horreur de ça parce que ça veut dire adapter, qu'on vit avec et qu'on est d'accord. Hein. Bon, mais c'est comme ça. C'est le mot adaptation. L'adaptation exige une coopération et une coordination, une compréhension sur les déplacements et les migrations et les réinstallations qui doivent être planifiées par suite des changements climatiques selon les besoins au niveau national, régional et international. Ça veut dire d'abord que les États ont admis que le changement climatique pouvait entraîner des déplacements de population. Un, c'est la première fois. Deux, qu'il faut faire une coopération, qu'il faut comprendre, qu'il faut planifier la réinstallation des gens selon les besoins. Et que tout ça, il faut le faire. Et qui doit le faire ? Tout le monde. Au niveau national, au niveau régional, au niveau international. Donc on renvoie le bébé à tout le monde, sans dire exactement ce qu'il faut faire. Mais nous, on a tous considéré que c'était un premier pas important politiquement. Accord de Paris, 2015. Est-ce qu'il y a un progrès sur les déplacements climatiques, puisqu'on est dans l'accord climatique uniquement ? Une décision de la conférence des parties, parce qu'il faut savoir que à Paris, en décembre 2015, il y a eu deux événements simultanés. Le premier, c'était la conférence des parties de la Convention de Rio 92, la COP 21, la 21e conférence des parties pour appliquer le traité de 92. Ça, c'était la première réunion. Et puis il y a eu une deuxième réunion qui était la négociation et la signature de ce qu'on a appelé l'accord de Paris, qui est un nouveau traité international qui s'ajoute à celui de 92. Donc il y a eu deux actes politiques et juridiques et diplomatiques. La COP 21, c'est la 21e réunion de la Convention sur le changement climatique, et de la signature de l'accord de Paris, qui est une nouvelle convention, qui a eu sa COP numéro 1 en 2016, l'année suivante, à Marrakech. Et donc, la COP 21, donc c'est l'accord de 92, a pris une décision en 2015, paragraphe 50, on va créer, on dit les États, tout le monde, y compris les États-Unis, on va créer une équipe spéciale pour élaborer des recommandations sur les déplacements de population. On crée une équipe spéciale pour élaborer des recommandations sur les déplacements de population. Dans l'accord, alors ça c'était dans la décision, dans l'accord de Paris en lui-même, dans le préambule, on se réfère aux droits de l'homme, enfin, droits de l'homme et accord de Paris. Ça fait partie de l'accord de Paris. Et on parle du droit des migrants. C'est la première fois que dans l'accord international sur le changement climatique, on parle du droit des migrants. Donc on reconnaît que les migrants existent et d'eux qu'ils ont des droits. Et puis, le secrétariat de l'ONU, qui est chargé de la Convention sur le changement climatique et de l'accord de Paris. Donc il y a un staff de plusieurs, je ne sais pas combien ils sont, dizaines, vingtaines de personnes, de fonctionnaires de l'ONU, qui gèrent le secrétariat, qui sont à la manœuvre hein, pour faire appliquer tout ça. Ils ont fait, en 2016, des consultations par Internet, en disant, voilà, on a été chargé à Paris de faire des recommandations sur les déplacements de population. On fait un appel aux ONG, à la société civile internationale. Faites-nous des idées, donnez-nous des propositions. Et donc, toutes les ONG avaient, alors si elles étaient au courant, évidemment, là, il y a tellement de trucs, si elles étaient au courant, il y avait des délais, si elles étaient dans les délais, pouvaient envoyer par Internet, si elles savaient se servir d'Internet, pouvaient envoyer par Internet des idées sur qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger les migrants climatiques. Et donc, mon organisation, le CDCE, qui était au courant, parce qu'on suit le sujet, on a envoyé notre projet de convention. J'ai envoyé des articles que j'ai écrits de 15-20 pages en anglais, en français, en espagnol, des articles expliquant pourquoi il fallait une convention sur les déplacés environnementaux. Donc j'ai envoyé tout ça par Internet. Alors vous pouvez, ça y est encore, hein, je n'ai pas vérifié hier soir, ça change tout le temps, sur le site UNFCCC, UNFCCC, c'est le site de la Convention sur le changement climatique, UNFCCC, hein, c'est marqué là en bas, .int/9508. Là, vous avez toutes les propositions faites par la société civile en vue de recommandations pour les déplacés environnementaux. Et il y a la proposition du CDCE. Donc on travaille, ça marche. Ça avance, comme dit l'autre. Mais, pour moi, toujours pas de statut juridique pour les déplacés environnementaux. Parce que là, on l'a proposé. Là, il y a des recommandations qui vont être faites. Qui vont être faites quand et pour qui. Qui vont être faites, c'est pour la prochaine COP. La COP, je ne sais plus combien, parce qu'il y en a tous les ans, 22, 26, 27, 28, je ne sais pas, qui a lieu là en décembre en Pologne. La COP climat a lieu en Pologne. Et c'est là que l'équipe spéciale doit présenter ses recommandations sur les déplacements de population. Donc on va voir en décembre quelles sont les recommandations sur les déplacements de population. Alors, je peux vous parier une bouteille de champagne, et je suis sûr de la gagner, qu'ils ne vont pas proposer une convention internationale. Parce que c'est trop tôt, les États ne sont pas encore prêts, on verra après. Ils vont dire, oui, il y a un problème, oui, il faut avancer, oui, il y en a qui pensent qu'il faut peut-être une convention, on va réfléchir un peu plus tard. Hein. Alors, voilà le projet de Limoges. Nous, depuis 2005, on travaille sur les réfugiés écologiques en tant qu'universitaire scientifique. On a fait un grand colloque en 2009 sur la catastrophe écologique et le droit, qui a été publié, parce que la science, elle sert que si elle est diffusée, si elle est publiée. Elle a été publiée chez l'éditeur Bruyland en 2012. Hein, donc vous pouvez acheter les catastrophes écologiques et le droit, vous saurez tout sur la façon dont le droit ne répond pas aux catastrophes, parce qu'il n'y a pas de droit des catastrophes. Et c'est là qu'on a dit, pour les catastrophes environnementales, écologiques, climatiques, etc., il faut qu'il y ait un statut pour les déplacer. Et donc on a élaboré un projet de statut, parce qu'on ne fait pas que du droit théorique, on est là pour inventer le droit de demain. Et il y a une troisième version en 2013, on a fait plusieurs versions pour améliorer, etc. Une troisième version qui date de 2013, que vous trouvez sur le site du CIDCE. www.cidce.org. cidce.org. Là, il y a le texte en français, en anglais, en espagnol du projet de convention sur les déplacés. Et puis, on a fait, à l'occasion de la conférence de Sendai sur les catastrophes, une déclaration universelle relative aux déplacés environnementaux. Parce qu'on a fait un truc court en deux pages. Déclaration universelle sur les déplacés environnementaux qu'on a fait circuler auprès des États à Sendai en 2015 et qu'on fait circuler partout dès qu'il y a une conférence sur le changement climatique ou les migrations. Alors, les fondements du projet de convention, je vais passer. Les objectifs, c'est évidemment, c'est donner des droits aux déplacés environnementaux. Et là, je cite un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est pas moi qui l'invente. Un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, Dogan contre Turquie, de 2004, où, j'ai mis une guillemet, donc c'est dans l'arrêt, il faut garantir les droits des déplacés environnementaux. Bon, c'est le Conseil, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui dit ça, c'est pas moi. Parce que dans la Convention européenne des droits de l'homme, il n'y a rien sur les déplacés environnementaux, parce que ça n'existait pas. Mais il y a les droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme protège les droits de l'homme des déplacés. Parce que les droits de l'homme des déplacés, c'est les droits de l'homme. Et donc, il y a plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme à la suite de catastrophes, pas climatiques, mais en Turquie, en Roumanie, etc., comme par hasard, c'est toujours dans les ex-pays de l'Est, où il y a une catastrophe environnementale, une usine qui explose, un barrage qui se rompt, et puis il y a des tas de morts ou de déplacés à cause du barrage ou des déversées de mercure après un barrage de je sais pas quoi. Bref, des gens victimes de catastrophes écologiques qui sont toutes en l'espèce industrielle. Hein ? Peut-être qu'il y en a une qui est naturelle, mais je ne suis pas sûr. Il y a peut-être un tremblement de terre, ou, etc. Mais la plupart, c'est industriel. Et les victimes se retournent contre l'État turc, contre l'État roumain, contre l'État je ne sais trop quoi, et disent « J'étais victime d'une catastrophe, on a violé mon droit de l'homme à la vie, parce qu'ils sont morts, et c'est leurs ayants droit, ou on a violé mon droit à mon domicile, parce que j'ai plus de domicile, parce qu'il a été envahi par la boue de l'inondation, et dans la Convention européenne des droits de l'homme, il y a le droit à domicile. Donc on a violé mon droit à domicile, c'est un droit de l'homme. Et je veux devant la Cour européenne des droits de l'homme pour qu'on répare, qu'on me donne des compensations financières pour réparer mon dommage. Et donc ça marche, c'est réparé à la CEDH. Et elle l'a même élargi alors qu'on lui demande pas, mais le juge de la CEDH est un juge assez, entre guillemets, progressiste, hein, qui voit large sur les droits de l'homme environnementaux. Et il a dit, en 2004, il faut garantir les droits des déplacés environnementaux. Formidable. Alors, pourquoi dans notre projet de convention, on dit déplacés environnementaux et pas réfugiés? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une raison juridique simple, parce que réfugiés, c'est la Convention de Genève pour les politiques, les persécutés. Et il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas tout confondre, c'est déjà très confondu, et on va voir que, hélas, en 2018, l'ONU réintroduit la confusion. On a mis environnementaux et pas climatiques, parce que pour nous, les victimes d'une inondation, ils sont d'abord victimes d'une inondation en tant que droit de l'homme. Et moi, je m'intéresse aux victimes droit de l'homme d'une inondation. Et le type qui est victime d'inondation, la première question qui se pose, c'est pas de dire est-ce que je suis victime d'un changement climatique. La première question qui se pose, c'est je suis victime de l'inondation, je me tire, où est-ce que je vais habiter et comment on va me réparer mes droits? C'est ça sa question. Celui qui est victime d'un tremblement de terre, il ne va pas se demander si c'est à cause du changement climatique. Celui qui est victime de l'élévation du niveau de la mer, il va dire, moi aussi, c'est comme une inondation, l'élévation du niveau de la mer. Il faut que je m'en aille, il faut que je survive et j'ai plus d'habitation. Donc tous ces gens-là, ils n'en ont rien à faire de la cause du phénomène dont ils sont victimes. Ils sont victimes d'une catastrophe. Elle est naturelle, elle est accidentelle, elle est causée par Dieu, elle est causée par la nature, elle est causée par l'État, elle est causée par qui vous voulez, ça m'est égal. Mon premier droit, c'est droit de l'homme, je dois survivre et je dois vivre. Je dois avoir une habitation, je dois être protégé. Je ne dois pas être victime de discrimination sous prétexte que je suis de telle race ou de telle religion, etc. Ou que je suis handicapé, ou que je suis veuf, ou que je suis une femme. C'est toutes les discriminations. Et donc, la victime des catastrophes, elle invoque d'abord les droits de l'homme. Elle ne se pose pas la question de savoir qui est responsable. Ça viendra après, plus tard. Et donc on a mis déplacé, pour ne pas mettre réfugié, on a mis environnementaux, pour ne pas mettre climatique, et on n'a pas mis écologique, parce qu'écologique, on ne sait pas très bien ce que c'est connoté plus ou moins, politiquement ou pas politiquement. Environnemental, c'est plus neutre et ça recouvre tout. Et en plus, on avait la bénédiction, si je puis dire, du représentant du secrétaire général de l'ONU sur les droits des personnes déplacées, Walter Kalin, qui en 2009 avait dit oui, finalement, dans le vocabulaire, il faut mieux mettre déplacés environnementaux parce que c'est plus large. Ça englobe tout, à la fois les catastrophes naturelles et industrielles, les écologiques, les climatiques, les naturels, les pas naturels, tout ce que vous voulez. C'est le plus large. Et il faut être le plus large possible, parce qu'il faut protéger le plus grand nombre de personnes victimes d'une catastrophe. Donc voilà pourquoi on a pris ça. Et on a pris une définition, qui est une définition juridique, puisque c'est une convention internationale, qui est large, Qu'est-ce que c'est un déplacé environnemental ? C'est les personnes physiques, les familles, les populations, parce qu'on a inclus non seulement les individus, mais les groupes, parce que dans les pays du Sud, les individus, ça n'existe pas. C'est les groupes, c'est les tribus. Hein, même la Convention des droits de l'homme africain, c'est les droits des peuples, des groupes. Hein, ils ont plus des droits collectifs que des droits individuels. C'est leur culture, il faut l'accepter. C'est leurs droits de l'homme. Ils viennent en groupe. C'est les familles. Et donc, il faut accepter les familles. C'est des groupes au niveau des droits de l'homme. Donc, les personnes physiques, les familles, les populations, confrontées à un bouleversement brutal ou insidieux, parce qu'il y a les catastrophes immédiates et les catastrophes à long terme, c'est pas pareil le tsunami et la désertification. De leur environnement, portant inéluctablement atteinte à leurs conditions de vie, les forçant à quitter dans l'urgence ou dans la durée leur lieu habituel de vie. Voilà. Je suis obligé de m'en aller. Brutalement ou pas brutalement, parce que finalement, ça fait 10 ans que je crève la faim à cause des désertifications, donc je ne pars pas tout à coup, hein, parce que ce n'est pas une catastrophe immédiate, la désertification. Il y a une convention sur la désertification. C'est le changement climatique ou c'est pas le changement climatique, j'en sais rien. Personne n'est capable de me dire pourquoi, mais je suis victime de désertification. Bon. Alors, dans cette convention, il y a des obligations et des principes. Obligation d'accueil, au nom du principe de solidarité, sans discrimination, parce que les droits de l'homme interdisent la discrimination, donc je ne peux pas dire j'accueille les blancs, je refuse les noirs. Ça, c'est pas possible. Principe de responsabilité commune et différenciée, ça, c'est un autre problème, si on recherchait les responsabilités. Mais on n'en est pas encore là. Principe de protection effective, ça, c'est le vocabulaire des droits de l'homme. Les droits de l'homme, ils ne sont pas théoriques et abstraits, ils sont effectifs. C'est ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme. Je protège des droits effectifs. Alors, il y a deux mécanismes. Il y a des droits attribués aux déplacés avec un statut, parce qu'on n'a pas de droit si on n'a pas un statut. Et ensuite, il y a des procédures. Parce que qui dit statut dit procédure pour accorder ou refuser le statut. Donc là, on rentre dans de la cuisine juridique, mais il n'y a pas de droit protégé s'il n'y a pas des procédures de protection. Les réfugiés de la Convention de Genève, il y a une procédure pour avoir le statut de réfugié. Il faut passer devant des comités, il faut faire appel, etc. Il y a une procédure qui n'est pas bien cadrée parce que la Convention de Genève, elle était très souple et pas précise à l'époque, en 1948. Et après, c'est renvoyé aux États. C'est chaque État qui fait son propre droit des réfugiés. C'est pour ça que c'est le bazar. Alors nous, on dit que ça ne doit plus être le bazar. On n'est plus en 1948. On fait un statut pour les déplacés. On donne les règles dans la Convention. On ne renvoie pas aux États. Parce que sinon, on va faire n'importe quoi. Donc c'est la Convention elle-même qu'on précise la procédure du statut. Pour ne pas faire les erreurs de la Convention de Genève. Alors, évidemment, c'est basé sur des droits. Là, j'en parle de détail. Il y a tous les droits. Hein, tous les droits. Alors, il y a les droits avant, parce qu'en matière de catastrophe, en droit international, la catastrophe, ce n'est pas uniquement de porter des secours. La catastrophe, c'est avant, pendant et après. Et ça, c'est un grand progrès. C'est la catastrophe, on doit la prévoir. Le droit doit anticiper la catastrophe. On doit prévoir les inondations. On doit prévoir les tremblements de terre. On doit prévoir l'élévation du niveau de la mer. Et ça doit être dans le droit, la prévision de l'élévation du niveau de la mer. Et là, si la France ne prend pas des règles à cause de l'érosion côtière, qui va obliger tous les gens qui ont leur maison, leur villa, à la limite du domaine public du maritime, et qui est dans la 10, 15, dans les 50 ans, tout ça, ça passe à l'eau. Si on ne l'a pas prévu, l'État est responsable de ne pas avoir prévu l'érosion côtière. Donc le droit des catastrophes doit anticiper la catastrophe. Et donc les droits pour les déplacés, il faut anticiper aussi les déplacements. J'ai une maison au bord de la mer, je sais que dans 15 ans, il faut que je m'en aille. Il faut que j'anticipe. Alors je revends, peut-être à perte, j'en sais rien, enfin je me débrouille. Bref, il faut avec l'État qu'on anticipe. droit au déplacement, droit au refus des déplacements, droit aux personnes déplacées, droit à être secouru, droit à l'eau, droit aux soins, droit à l'habitat, droit à tout ce que vous voulez. C'est tous les droits de l'homme. Donc là, c'est pas compliqué. Vous copiez-collez tous les droits de l'homme qui s'appliquent à ces gens-là. Donc il suffit de prendre toutes les conventions sur les droits de l'homme avec tous les droits de l'homme. On n'invente rien. C'est ce que j'ai dit aux États qui ne veulent pas ouvrir une convention là-dessus. On n'invente rien. Les droits qui sont dans le projet de convention existent déjà. On ne crée aucun droit nouveau, sauf le statut de la victime, qui va pouvoir dire « Moi, je suis victime d'une catastrophe. Et j'ai des droits qui sont tous les droits que tout le monde a. » Mais c'est écrit noir sur blanc, parce que là, c'est dans un cas particulier. Droit aux déplacés interétatiques à garder leur nationalité, s'ils veulent. Hein, le gars de Kiribati, là, dans le Pacifique, il va disparaître à son état. Qu'est-ce qu'on va faire pour le déplacer de Kiribati? Il n'est plus citoyen de Kiribati? Ah ben si, pourquoi pas, il peut garder la citoyenneté Kiribati, même si l'État n'existe plus, pourquoi pas, si ça lui fait plaisir. En tous les cas, on va lui faciliter d'être naturalisé. Il aura droit, en priorité, à être naturalisé français, parce qu'il est déplacé de Kiribati. Donc, reconnaissance des statuts juridiques, il y a une procédure, j'entre pas dans le détail, il y a une commission nationale, évidemment, pour donner le statut, c'est par l'intérêt, une commission indépendante. On peut faire appel devant un organisme national, on peut faire appel devant un organisme international, ce qui n'existe pas pour les réfugiés. Les réfugiés, si la France refuse à Madame X d'être réfugiée alors qu'elle vient de Tchernobyl, pour elle, c'est fini. Elle ne peut pas aller à Genève devant une instance pour faire appel, parce que ce n'est pas prévu. Moi, dans mon statut, le déplacé environnemental, si la France lui refuse le statut parce qu'il ne rentre pas dans les conditions, il peut faire appel à une autorité internationale créée par la Convention qui va examiner si la France a bien apprécié s'il avait droit ou pas au statut de déplacé environnemental. Donc il faut donner des garanties. Il faut faire appel avec le principe de non-refoulement au départ. On n'a pas le droit d'être refoulé tant qu'on n'a pas examiné si vous étiez bénéficiaire du statut. Donc il y a la haute autorité, les commissions nationales, les déplacés environnementaux. Conclusion. Il y a urgence d'un instrument nouveau. Il y a une synergie qu'il faut renforcer entre droit de l'environnement, droit de l'homme, et droit humanitaire. Hein, le statut des déplacés environnementaux, c'est au carrefour entre droit de l'environnement, droit de l'homme et droit humanitaire. C'est trois droits qui se rencontrent, qui se mettent en synergie. Alors à Marrakech, à la COP22 en 2016, le PNUE a fait un rapport, vous savez, le programme des Nations Unies pour l'environnement, a fait un rapport fin 2015 sur changement climatique et droits de l'homme. Tiens, on commence à s'intéresser maintenant plus simplement au changement climatique, politiquement, scientifiquement, etc. Mais on commence à dire, ah tiens, il y a peut-être un rapport entre changement climatique et droits de l'homme. C'est nouveau, hein. Le rapport de John Cox au Conseil des droits de l'homme qui parle des migrants au Conseil des droits de l'homme en 2016. Une plateforme en 2016 sur les déplacements causés par les catastrophes à Genève avec Nansen. Bref, tout un tas de choses en 2015-2016 qui renforcent les rapports ou les discussions, etc., sur changement climatique et droits de l'homme. Alors maintenant, il y a un nouveau thème qui s'ajoute. C'est que vous savez peut-être que le nouveau secrétaire général des Nations Unies, Guterres, qui est un Portugais, avant d'être secrétaire général des Nations Unies, depuis l'année dernière, hein, il était haut-commissaire des Nations Unies aux réfugiés à Genève. Il a été pendant 10 ou 15 ans, donc fonctionnaire de l'ONU, hein, haut-commissaire aux réfugiés à Genève. Mais il se trouve que le haut-commissariat aux réfugiés à Genève, depuis je ne sais pas quelle année, a élargi son champ d'intervention. Lui, il est sur le terrain avec les camps hein, pour accueillir les réfugiés. Les réfugiés politiques, à l'origine, puisqu'il est haut commissaire aux réfugiés, Convention de Genève. Mais il a élargi son job à déplacés, à migrants. Et il accueille maintenant des gens qui ne sont pas des réfugiés politiques dans les camps de l'ONU. Dans les camps de l'ONU, en Irak, en Turquie, etc., ils ne sont pas tous de Syrie réfugiés politiques. Et puis les camps en Afrique qui viennent du Mali ou du Congo, etc., ils ne sont pas des réfugiés politiques. Hein, ils sont des migrants, des déplacés. Ils sont accueillis par les camps de l'ONU. Parce que le Haut Commissariat accueille réfugiés et migrants. Et donc ce monsieur qui a été choisi par les États comme secrétaire général de l'ONU, il est complètement imprégné de cette problématique. C'est sa priorité. Et c'est pas pour rien qu'il a fait adopter en septembre 2016 ce qu'on appelle la déclaration de New York sur les réfugiés, les migrants et les déplacés. Les réfugiés, les migrants et les déplacés. Et je mets réfugiés, migrants, même combat. Parce que dans le vocabulaire, on utilise ces mots en même temps, dans le même paquet. Et que dit la déclaration de New York de 2016 ? Les réfugiés, les migrants, les déplacés, tous ont des droits. Tous ont des droits. Quelle que soit leur catégorie juridique. Mais avec la seule différence... Et ça, c'est pas dit encore officiellement, mais tout le monde le sait. Mais il faut pas le dire politiquement. La seule différence, c'est qu'entre les réfugiés, les migrants et les déplacés, qui tous ont des droits, d'après l'ONU, septembre 2016, tous ont les droits, mais seuls les réfugiés, en réalité, ont des droits applicables, ont des droits effectifs. En tous les cas, pour les externes, pour les déplacés externes, pour ceux qui franchissent une frontière. Parce que les migrants et les déplacés externes qui franchissent une frontière, qui ne sont pas réfugiés, eux, ils n'ont pas de droit, parce qu'il n'y a pas de statut juridique des déplacés environnementaux. Donc voilà où on en est. Alors Gutiérrez, qui le sait très bien, mais il sait très bien qu'il ne peut pas violer les États... Et que s'il va trop vite, c'est l'échec. Et l'échec, en général, c'est la marche arrière, à l'ONU, au point de vue diplomatique. Si on rate son coup, on en prend pour 10 ans. Et donc c'est pour ça qu'il va pas à pas. Alors qu'est-ce qu'il a décidé en 2018 ? Il va y avoir 2 événements très importants politiquement en 2018, à la fin de cette année. À la fin de l'année, les Nations Unies vont adopter le pacte mondial pour les réfugiés. Le pacte mondial pour les réfugiés. Hein, c'est un document qui circule déjà, vous pouvez le trouver sur l'ONU. Hein, il fait 20, 30 pages. Il est en négociation. Le pacte mondial pour les réfugiés. Pour les réfugiés. Donc lui, politiquement et juridiquement, il s'applique à qui ? Uniquement aux politiques. Et il est là pourquoi ? Puisque vous dites puisqu'il y a déjà une convention. Il est là pour améliorer l'accueil des réfugiés politiques. Mettre noir sur blanc à l'ONU, ce que l'ONU n'a jamais fait pour les réfugiés, c'est les bonnes pratiques pour bien les accueillir. Mieux faire, puisque je l'ai dit tout à l'heure, la Convention de Genève, elle a été faite, puis après, c'est plus rien passé à l'ONU. C'est les États qui gèrent les réfugiés. Là, maintenant, l'ONU dit, l'ONU va gérer aussi les réfugiés. Collectivement, il va y avoir des directives. Alors, ce n'est pas un traité, c'est des recommandations, c'est soft law. Il va y avoir des directives pour mieux s'occuper des réfugiés. Ça va être le pacte mondial des réfugiés. Très bien. 2, Marrakech. Décembre 2018, il va y avoir une conférence internationale, intergouvernementale, pas des sous-fifres, hein, intergouvernementale, chef d'État et de gouvernement. Ils vont adopter quoi ? Le pacte mondial sur les migrations. Alors quand j'ai su ça, j'ai dit « Youpi, bravo, c'est bien, ça y est, on a gagné ». C'est pas un traité international. Ça ne sera pas un traité international. Le pacte mondial sur l'immigration, ça sera un document de soft law sur les bonnes pratiques résultant de tous les documents que je vous ai mentionnés, des rapports d'Hansen, etc. Donc tout ce qu'on fait de mieux sur le marché pour dire il faut bien traiter les migrants sont des hommes et des femmes, ils ont des droits, il faut mieux faire, mais ce n'est pas obligatoire. Et donc, toujours pas de statut juridique pour les déplacés environnementaux. Et il n'y en aura pas en décembre 2018 pour le pacte mondial sur les migrants. Avec une escroquerie que je ne manquerai pas de rappeler dans toutes les conférences internationales où j'irai. J'irai à Marrakech. Une escroquerie juridico-politique. Et là, Gutiérrez, à mon sens, a été mal conseillé. J'espère que ce n'est pas lui qui l'a décidé. C'est d'appeler son truc, là, son bidule, de l'appeler pacte mondial. Vous savez que politiquement et en droit, les mots ont une valeur juridique, mais aussi symbolique. Alors juridiquement, un traité a différents noms. Il y a des traités qui s'appellent traités. Parfois, ils s'appellent conventions. Parfois, ils s'appellent pactes. Parfois, ils s'appellent accords. Mais à la sortie, ça devient ce qu'on appelle en droit un traité international. Mais qui a un label différent. Pour des raisons X ou Y, de communication peut-être. Il y a des labels qui portent mieux que d'autres. Et puis ce qui n'est pas juridique a aussi des labels, déclarations, chartes parfois. Parfois, il y a des documents qui s'appellent chartes qui ne sont pas juridiquement contraignants. Et des déclarations, on sait que ce n'est pas juridiquement contraignant. Et le terme pacte, il est labellisé en droit international des droits de l'homme par deux traités internationaux qu'on appelle pacte international sur les droits civils et politiques de 1966 et sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966. C'est-à-dire que dans le droit des droits de l'homme, en droit international, les deux grands traités universels qui ont été signés et ratifiés par tous les États du monde, les deux grands qui sont la base du droit actuel des droits de l'homme, il date de 1966 et il s'appelle Pacte international. Et donc, dire pour les migrants qu'on l'appelle pacte, c'est une usurpation de vocabulaire qui introduit une confusion des genres, qui peut faire croire aux gens « Ah ben ça y est, regardez, pour les migrants, il y a tout ce qu'il faut. Hein. » Il y a des tas d'hommes politiques qui vont vous dire « Ne vous embêtez plus, il y a ce qu'il faut. L'ONU a adapté le pacte pour les réfugiés, le pacte pour les migrants. Maintenant, ça y est, il y a tout ce qu'il faut. » Non, non, c'est pas vrai. Parce que c'est du soft law. Voilà, j'ai terminé. Merci. Quelques questions, parce qu'après, on ferme, je crois.